Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux invités prestigieux que je voulais recevoir depuis longtemps, et un livre et une série de documentaires m'a enfin permis de lancer cette invitation. Je parle de Jacques Debs et Marie Arnaud. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons évoquer une série de reportages, une série de visites de monastères d'Europe, Les Témoins de l'Invisible, un livre qui est sorti dans le courant de l'année passée aux éditions du Zodiac. Alors monastères d'Europe, bien entendu, même si nous sommes dans Chrétien d'Orient, mais nous savons que le monachisme vient de cet Orient, du désert égyptien, du désert syrien, du sud-est de la Turquie, enfin tous ces lieux que vous avez parcourus, que vous connaissez bien. Marie Arnaud, je voudrais vous poser cette première question. Vous, votre parcours est un petit peu différent. Vous avez fait des films sur des chamans au Mexique, je crois. Mais vous me disiez en préparation de cette émission que d'une certaine manière, ça vous a mené vers une autre frontière de l'invisible.
Oui, c'est ça. Jacques et moi, nous avons réalisé des films partout dans le monde. Je dirais, excepté en Europe, pendant 30 ans. Parce que ce qui nous intéressait, c'est différents codes, si on peut traduire la spiritualité et par des films en témoigner et amener ça à un public européen. Essayer pour comprendre les diverses façons d'aborder la spiritualité. Et évidemment, j'ai eu une grande aventure pendant 20 ans au Mexique, mais en voyageant aux États-Unis, voilà, Jacques au Japon, en Asie centrale, au Moyen-Orient, en Afrique. Et on s'est dit, bon voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, voilà, on a 60 ans, tous les deux, on passe notre temps à faire des films partout dans le monde, et c'est intéressant de parler de l'Europe, ça serait intéressant de s'y pencher un petit peu, les racines de l'Europe, etc., parce que l'Europe, dans ces incertitudes qui nous balayent en ce moment, on trouvait que c'était quelque chose d'important. Et quelque chose d'important, si on repart aux racines de l'Europe, c'est aussi, par exemple, on s'est posé une question toute simple. Il y a encore des monastères. Alors, sont-ils des musées? Sont-ils complètement désacralisés? Et puis, qui sont ces personnes qui rentrent ou qui entrent dans des monastères au XXIe siècle? On voulait faire quelque chose de maintenant. Du alors, 21e siècle.
Alors, vous avez couvert l'Irlande, la Russie, la Grèce, la Pologne. Je crois même qu'il y a un monastère géorgien, on en reparlera tout à l'heure. Vous avez rencontré, c'est pas simplement un livre sur l'architecture, hein, les images sont superbes. Les documentaires sont passés sur la chaîne Arte. Mais vous rencontrez aussi les témoins de ces monastères, les témoins de cette foi.
Exactement. Nous voulions raconter les témoins de l'invisible. Comment ces personnes rentraient dans leur intimité et pénétraient dans les clôtures, dans les clausturas. Cette frontière qui existe réellement. Et on s'est dit, on part, un homme, une femme, en repérage déjà. Et on va essayer de les convaincre. Convaincre les communautés de nous accueillir avec notre équipe mixte. Que ce soit même chez les cisterciens, cisterciennes, franciscains, etc. Orthodoxes. Et d'essayer d'avoir des rencontres, c'est-à-dire pousser les portes même des cellules, et qu'ils nous parlent de ce moment où ils ont eu l'appel et ils ont pris la décision de rentrer dans les ordres. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour eux aujourd'hui?
Vous avez été accepté partout.
On a eu cette chance, je dois dire. Ça a été une belle aventure, ça, tous deux.
Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne connaissiez pas?
Je dirais l'ouverture. L'ouverture totale. À partir du moment où on a passé les codes d'entrée, c'est-à-dire d'aller prier avec eux, d'écrire des tonnes de mails, hein, quand même. Mais à partir du moment où on se déplace et on va prier avec eux, c'est comme une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'ils nous observent en priant. Quelque chose se déclenche, une rencontre. Et après, on racontait notre aventure, puisque c'était faire tout un parcours. On n'allait pas rester non plus deux semaines, donc on restait que trois jours. Donc on était un peu léger. Notre présence était un peu je dirais, acceptable déjà. Et puis, simplement, parler de la foi, d'arriver avec notre drone aussi, d'essayer de pénétrer avec le drone à l'intérieur des clôtures, ça c'était jamais fait. Mais on leur a expliqué que c'était comme le Saint-Esprit qui allait les lier. Donc bonjour, c'est comme ça qu'on a eu toutes les communautés à l'extérieur, etc. Et de les lier comme ça des uns aux autres, comme un message. Je dois dire qu'il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup d'amitié. Et je dois dire que c'est des gens qui sont vraiment dans le monde. Voilà. Je dois dire que c'est des gens qui sont parfois pas cloîtrés du tout, mais qui rentrent dans ce silence. C'est des gens qui sont dans... Ils étaient même plus au fait de l'information que nous, avec des facultés d'analyse, etc. Ce qui fait qu'on a, après les prières, etc., lors de dîner, on pouvait avoir des discussions à bâton rompu. Voilà. Donc ce que j'ai appris, c'est l'ouverture. C'est ici et maintenant et le futur.
Alors Jacques Deps, je me tourne vers vous pour continuer cette conversation et cette présentation. Alors vous êtes d'origine libanaise, vous avez fait plusieurs films déjà sur cette thématique très précise du christianisme oriental. Je veux rappeler la série Mes Éthiopies, que vous avez parlé de l'Éthiopie, vous avez parlé de l'Égypte, un petit peu de la Syrie si je me souviens bien, du Caucase.
Oui, l'Arménie. Et
l'Arménie, voilà.
L'Arménie, l'Inde, le Liban et l'Éthiopie.
Et vous avez écrit un livre chez Albin Michel, à la recherche des églises chrétiennes.
Oui.
Alors votre parcours, votre motivation pour vers cette voie monastique.
Alors moi je suis originaire de la vallée de Kadisha, qui est la vallée sainte du Liban, qui a, si on se remémore les pages magnifiques de Lamartine découvrant cette vallée, il racontait qu'il y avait des centaines de cheminées qui fumaient. C'était là où vivaient les ermites. Il y avait des milliers d'ermites qui vivaient dans cette vallée. C'est pour ça qu'on l'appelait sainte. Il y avait évidemment des monastères cénobitiques, mais il y avait aussi beaucoup d'ermites. Et cette tradition érémitique, évidemment, se perd. Et c'est pour ça que nous avons voulu, avec Marie, chercher à comprendre qu'est-ce qui se passait en Europe, parce qu'aujourd'hui le monde entier, pas seulement l'Europe, vit une crise très grave. À notre sens, cette crise a pour origine la crise spirituelle. De cette crise spirituelle découlent les autres. Donc les politiques, évidemment, ils essayent de remédier à cela en trouvant des solutions politiques et économiques, en oubliant toujours la cause mère qui est la crise spirituelle. Le monde musulman est dans un délabrement spirituel que nous connaissons tous malheureusement, puisqu'il s'est coupé de ses racines spirituelles qu'est le soufisme. Il n'y a plus qu'une expression politique de l'islam. L'Europe, elle, est en crise depuis déjà pas mal de temps. C'est une crise spirituelle, mais qui n'a pas asséché, si vous voulez, la tradition spirituelle. Et notre travail nous permet de nous en rendre compte qu'il y a un espace européen chrétien qui dépasse évidemment l'Union européenne, qui n'est qu'un système. Et cet espace spirituel va de l'Irlande à la Russie, de la Grèce à la Pologne. Il recouvre tout le territoire européen géographique. Et on sent qu'il y a une unité profonde qui unit tous ces peuples, au-delà des systèmes, au-delà des langues, au-delà des traditions, orthodoxes ou catholiques. Parce que finalement, le monachisme a la même structure, que ce soit dans la tradition catholique ou la tradition orthodoxe, qu'elle soit européenne ou orientale, et qui repose sur la fameuse devise de saint Benoît, prière et travail, sur les trois vœux consacrés qui sont la pauvreté, la chasteté, l'obéissance et pour certains la stabilité. Donc c'est ce mode de vie qui a permis à l'Europe en fait de se structurer, parce que comme nous ont dit des moines autrichiens, le but de saint Benoît était de créer la paix intérieure dans la vie de chacun des moines pour qu'ils puissent la transmettre aux autres. Et s'il y a une paix intérieure, il peut y avoir une paix extérieure. Or aujourd'hui, dans notre monde, il n'y a absolument pas de paix intérieure. Nous sommes pollués, dans le vrai sens du terme, par le bruit. Et c'est le bruit, il est omniprésent partout, aussi bien en Asie, en Extrême-Orient, qu'en Europe, qu'en Afrique. On ne sait pas. On ne sait plus apprécier le silence. On en a une peur bleue. Et les moines sont là pour nous rappeler le silence est une valeur fondamentale, qu'on peut s'appuyer sur le silence pour pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Si dans notre âme, on n'a pas su faire le tri, laisser les choses un peu se purifier, on ne peut pas vraiment rencontrer quelqu'un. On en a peur, on en a une peur bleue, parce qu'on est nous-mêmes très perturbés. Et cette crise spirituelle qui nous affecte, malheureusement, n'est jamais prise en compte par les hommes politiques, parce que eux-mêmes sont complètement démunis face à la spiritualité. Ils ne savent pas plus ce que c'est. Ils mélangent spiritualité, pouvoir politique, temporalité. Ils ont peur de les mélanger parce que ils se disent où va être la laïcité. Et c'est pour ça qu'ils n'apportent pas des réponses intelligentes et intelligibles à la crise que nous vivons aujourd'hui.
Alors nous sommes avec Jacques Debs et Marie Arnaud ce matin pour évoquer un livre, Monastère d'Europe, les témoins de l'invisible, paru aux éditions du Zodiac. Je vois un mot que vous utilisez régulièrement dans cet ouvrage, qui est peut-être un fil conducteur, qui est le mot pèlerinage. Oui. Est-ce que c'est un mot, Marie, qui vous a guidé d'une certaine manière, une espèce de ressource peut-être ?
Exactement. Il faut savoir que les routes se sont construites sur ces routes de pèlerinage. C'est-à-dire que l'Europe était irriguée par les routes protégées par les monastères et les routes de pèlerinage. Et ces pèlerins qui marchaient à travers l'Europe, en fait, on retrouve tout le maillage commercial, etc. Puisqu'à l'époque, les gens voyageaient énormément. Et c'était une façon de se réfugier. En même temps, les moines ont été des architectes, les gardiens des livres, les écrivains, les créateurs des vignobles, même si on avait du vin romain précédent, mais en tout cas, voilà, architecture.
Des conservatoires aussi d'une certaine culture pendant des siècles obscurs.
Exactement. Ce maillage de l'Europe, toutes ces routes et tous ces pèlerinages, ça nous a semblé, il fallait retourner à ces sources-là en tout cas. Parce qu'en fait, on a découvert en faisant le film, que par exemple les routes de Compostelle, en général nos monastères étaient sur les routes de Compostelle, même si on ne les avait pas choisies en fonction de ce critère-là, et que sur le chemin de Compostelle, on a rencontré des gens de tous les pays du monde et beaucoup, beaucoup de jeunes. Ça nous a beaucoup, beaucoup surpris. Il y a autant de jeunes qui marchent ensemble. Parfois, ils ne sont pas catholique ou enfin ils se disent comme ça, mais marcher ensemble, c'était quelque chose de très important. Donc on a, et dans ces monastères qui sont souvent aussi comme des hôtels, l'hôtellerie de retraite pour des gens, pour des laïcs comme nous, on a rencontré des jeunes de 17-18 ans qui venaient faire une retraite pendant une semaine. C'était à Orval en Belgique, chez les cisterciens, et ils ont expliqué, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, mais non, on est très heureux, on prend rendez-vous avec les moines. Et parce que nos parents ne nous ont pas du tout appris ce que c'était la spiritualité. Voilà, ça c'était leur thème. On ne sait pas ce que c'est. On se pose des tas de questions. Et on est venu ici pour que les moines nous répondent.
Et vous, Jacques Debs, vous avez comparé, vous avez étudié, visité, je pense, à ces monastères d'Éthiopie, d'Égypte. C'est quand même une expression très différente de la foi.
Je dirais dans la forme, évidemment, elle est très différente. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Debre Damo, qui est un monastère qui est posé sur un monticule. Pour l'atteindre, il faut grimper à la corde, il y a 30 mètres de hauteur, c'est assez vertigineux.
En Éthiopie.
En Éthiopie. Et là, les moines qui font les vœux perpétuels ne redescendent plus dans la vie. Ils restent là-haut et ils meurent là-haut, ils sont enterrés là-haut. Donc on rencontre des êtres qui ont fait un choix définitif et extrême. La vie continue parce qu'il y a les moignons, il y a les novices qui vont et qui viennent, qui font le lien entre ce rocher et la vie. Mais cependant, ceux qui sont là-haut savent qu'ils ne vont plus jamais redescendre. Ils sont là jusqu'à leur mort. Et ça fait, je pense, un effet très fort. Pour moi, quand je les ai rencontrés, j'étais J'étais ébloui par leur engagement. En plus, il faut dire qu'ils sont d'une beauté renversante parce qu'ils portent des couleurs chatoyantes, un jaune safran extraordinaire. L'abbé portait une robe extraordinaire. Et puis, leurs prières en Éthiopie sont très très longues. Il faut avoir le courage physique de tenir une messe en Éthiopie.
Ça peut être 4 ou 5 heures.
4 ou 5 heures. Et quand on est à l'approche de Pâques ou de Noël, c'est 7 heures. Donc, je pense que la vie d'un moine éthiopien est une vie d'ascète qui exige énormément d'efforts physiques, beaucoup plus que ce qui se passe dans le monde orthodoxe européen ou dans le monde catholique européen. C'est une autre exigence. Je pense qu'ils sont tout proche du buisson ardent et qu'ils veulent y rentrer et se consumer dedans. Ce qui est intéressant, et ça nous l'avons constaté avec les moines d'Europe, quand on leur posait cette question, mais vous avez fait don de votre sexualité, vous n'allez plus avoir de rapport, est-ce que ça vous coûte? Et tous ont eu le courage, la lucidité, l'honnêteté de nous répondre que oui. Évidemment, ça coûte pour un homme ou pour une femme, à la fleur de l'âge, en pleine puissance, de faire ce choix-là. Cependant, ce qu'il recevait comme bonheur dans le monastère compensait bien au-delà ce qu'on pourrait appeler ce sacrifice de la chasteté, de la sexualité, de la vie familiale. C'était une autre forme de fécondité. On a l'impression, quand on est en Orient, en Éthiopie par exemple, où cette question est finalement rapidement éliminée, tellement est ardente la vie qu'il mène sur ce rocher-là. C'est assez extraordinaire parce que c'est complètement contemplatif. Il y a pratiquement rien d'apostolique. Il y a que les pèlerins qui viennent et ils les voient très peu. S'ils participent aux offices, mais c'est très bien. Sinon, ils s'en vont. Donc, ils sont très isolés. Hein. Ils n'ont pas. Nous, c'est parce qu'on venait pour un film, etc., que l'abbé m'a reçu et qu'il a pu me parler. Mais sinon, il vit dans une cabane, tout seul, il lit, sa journée se passe entre les lectures, il mange de manière tout à fait frugale, seul. Donc il n'y a pas une vraie vie communautaire.
Une vie communautaire au sens où on l'entend, qui est très réglementée finalement,
qui est très
réglementée, en Europe.
Oui. Elle est beaucoup plus souple, parce qu'ils vont aux prières quand ils veulent. Il y a les offices du dimanche où tout le monde se retrouve, mais sinon, c'est beaucoup plus souple. Et donc c'était intéressant de voir une autre forme de monachisme, plus proche des premiers pères d'Égypte, les pères Macaire, Saint Antoine, Saint Pacôme, qui ont lancé cet érémitisme, et de le voir encore en pratique, en vie. C'est ce que nous avons constaté en Europe, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, contrairement à ce qu'on croit, parce que les médias n'arrêtent pas de dire que la France est déchristianisée ou l'Occident est déchristianisé, à mon sens, c'est complètement faux. Si on veut voir les choses de manière tout à fait superficielle, oui. Si on est comptable de combien de gens vont à la messe le dimanche, etc., évidemment, on peut dire oui, il y a une crise profonde. Mais si on veut regarder les choses vraiment en profondeur et être subtil, on se rend compte que il y a une recristianisation douce mais sereine et en même temps très ferme de l'Europe occidentale, sans parler de l'Europe orientale, la Russie, qui a rebasculé après le communisme de manière foudroyante vers le christianisme.
Et une recristianisation, Marie, qui passe peut-être à la fois par le pèlerinage, ces chemins, et les monastères, justement, qui sont des haltes, et qui correspondent peut-être à un besoin du temps aussi, d'être hors du monde, pour une retraite, pour une rencontre.
Oui, vous avez raison. Les pères abbés, souvent, nous ont dit, nous, ce qu'on peut donner, c'est du temps et du silence. Deux choses qui sont un petit peu difficiles dans nos vies quotidiennes. Et l'écoute, quoi. L'écoute. Je voulais dire aussi, dans toutes nos... On a choisi les grands lieux de pèlerinage, évidemment. C'était incontournable qu'on parle du Mont Saint-Michel, du Mont Athos et de Saint-Jacques de Compostelle, puisque c'était les trois points avec Rome, mais les trois points les plus importants avec Jérusalem, mais qui n'est pas Rome. Autrement, ce qui était important pour nous aussi, c'est de trouver des monastères moins connus, un peu hors route. C'est pour ça qu'on a des thèmes au bord de l'eau, etc. C'est-à-dire des monastères qui sont peut-être qu'on les voit de loin, peut-être qu'on admire l'architecture, mais on ne sait pas qu'il y a des moines. Même au Mont-Saint-Michel, les gens ne savent pas qu'il y a des moines et des nonnes. Voilà, ça c'est un petit problème aussi, puisqu'on les a traités de comédiens, donc on pensait que c'était des acteurs de théâtre vivant. Et puis, il y a aussi, par exemple, en Pologne, ces moines franciscains qui sont pompiers, et qui sont donc la meilleure brigade de pompiers de Pologne. Donc c'est assez surprenant, puisqu'on vit, nous, l'équipe vivait, et on dormait sur place dans les monastères, et on se fait réveiller par des alarmes, on voit tous les moines avec leurs robes et la corde, qui courent et qui se changent en un clin d'œil comme ça, en pompier avec le casque rutilant, le gros camion rouge et en pimpon. Voilà.
Jacques Debs, je me tourne vers vous pour une dernière question. Quel serait dans tous ces monastères le plus oriental ?
Nous avons quand même tenu absolument avec Marie d'avoir l'Arménie dans notre film et dans notre livre de photos. Parce que déjà, l'Arménie, je pense, est un pays très cinématographique et très un bonheur pour les photographes que nous sommes. Et nous avons choisi le monastère de Tatev, qui est unique en Europe parce qu'il est animé par un seul moine. En général, tous les monastères, il y a une communauté. Là, il n'y a qu'un seul moine, qui est un mathématicien, un type qui avait fait des hautes études de mathématiques et qui, à la suite d'un pèlerinage, est tombé amoureux du lieu. A été cloué sur place, je le cite. Il a terminé ses études de mathématiques, fait ses études de théologie et a demandé au patriarche de l'envoyer là-bas. Et le patriarche lui a dit, mais il n'y a rien, c'est des ruines. Il a dit, tant pis, je vais réanimer le lieu. Et c'est un lieu vraiment en réanimation spirituelle parce que l'église d'Arménie a été détruite, comme on le sait, par le génocide et l'Arménie a résisté dans l'Arménie ex-soviétique. Et durant l'époque soviétique, ce monastère a été à l'abandon. Et donc il est revenu, il sonne les cloches, il réhabitue la
population. Comment s'appelle-t-il ?
C'est le monastère de Tatev.
Et le moine ?
Père Michael, qui est une personnalité exceptionnelle, hein, extraordinaire. Et ça, c'est un monastère qui est vraiment aux confins... À la frontière de l'Iran, c'est vraiment le bout de l'Europe.
On peut y aller, on peut le visiter.
Oui, on peut y aller. C'est à 300 km d'Erivan. Les routes sont très mauvaises, mais on peut y aller.
Et c'est donc un monastère avec un seul moine.
Nous étions ce matin avec Marie Arnaud et Jacques Debs. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Monastère d'Europe, les témoins de l'invisible aux éditions du Zodiac. Je voudrais remercier Olivier Dupré, Claire Poinsignan et Dany Journaud pour la technique et la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant.
Et c'est Arte Édition aussi.
Arte Édition et Édition du Zodiac. Bon dimanche.
Thank you.